C'est l'équipe du soir, bonsoir. Vous venez de voir le premier épisode de la saga Rocky tous les lundis soirs pendant 6 semaines. Donc il y aura un Rocky entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir. Ce soir, on va vous parler finalement de ce personnage du cinéma, plus vrai que le réel. Et dans quelques minutes, nos débatteurs vont s'animer. Mais juste avant, le protocole, évidemment, bah, c'est de l'appliquer le protocole. C'est de présenter les invités. C'est un poilu de l'équipe du soir, mesdames, messieurs. Éric Blanc, président de l'équipe du soir. Bonsoir, Rico. Ça va, mon Éric?
Très bien. Bon, on digère. Oui, comme les serpents, mais les boas.
Je vous présente vos amis. Certains œuvrent pour, pas le PSG, mais le Parisien, la fouine de l'équipe du soir. Benjamin Corrèz, bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, mais bonsoir, président.
Ça va?
J'ai bien digéré, moi, tout va bien.
Bernard nous a donné un petit mot. Est-ce que j'ai un proverbe ce soir? Bah oui, le proverbe du Dr Love, le proverbe extra, mais la mauvaise caméra. Bonsoir, docteur.
Qui est en faute est en crainte, dit le proverbe milanais. L'Inter a très peu fauté cette saison, seulement 3 fois. N'avait rien à craindre pour le Scudetto. Forza Inter, bravo à eux.
Bonjour. Inter, champion d'Italie ce soir. On en parle dans l'équipe du soir. Face à vous, Pia Clément. Elle arrive, notre femme du Paris Saint-Germain, animatrice de radio 100% PSG. Qu'est-ce qui se passe,
ma petite Pia? Je digère le Barça.
Ah. D'accord.
Pardon, Eric.
Ah non. Mais pardon. Si tu mets du temps au gagnant, ça m'inquiète.
Taillez.
Parce qu'on va te perdre, pendant 2 mois.
C'est la dernière émission de Fayot. Ce soir, c'est du taillage à la débroussailleuse.
Ne faites pas Guillaume Dufy, il s'en charge lui-même. Et il n'a pas parlé. C'est bien, Guillaume. Vous êtes en gros progrès. Le commissaire Valentin. Bonsoir, commissaire.
Oui.
Ça va?
Ouais, je digère ma semaine de vacances à Quiberon. Vous savez comment ça se passe là-bas.
De l'eau, de l'eau, de l'eau.
De l'eau?
Oui, de l'eau.
Et s'hydrater beaucoup.
Oui, voilà. Ah, c'est la Bretagne.
Bah, pour éviter l'insolation.
Ouais. Oui. D'accord. C'est vrai que vous avez plutôt de bonnes couleurs.
Oui. Très belle. Ouais. Très, très belle.
Et Camille Macali est dans la place. Alors, pour les infos, c'est un peu plus tard, mais pour le cadeau, c'est maintenant.
Oui, bonsoir à tous. Alors, l'équipe est partenaire des premiers championnats du monde de Watch Hashtag. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la version extrême du jeu de chat. Oui, Guillaume Dufy est très fort à ça, d'ailleurs. C'est hyper spectaculaire, une ambiance de dingue avec des Français qui cartonnent. Et ce sera ce week-end, à partir du 26 avril, vendredi, pendant 2 jours, aux arènes des Briques-Courcouronnes. Alors, ce soir, il n'y aura pas un gagnant,
non.
Il y aura 5 gagnants,
ah ouais,
avec un pass pour les 2 jours. Donc évidemment, vous allez sur le compte de l'équipe du soir et vous savez quoi faire pour jouer.
Oui. 2 jours à se cacher.
Ah oui, mais si le mec le premier jour il n'est pas trouvé, il faut un deuxième jour.
C'est une bonne nouvelle. Pour la première fois, tu n'auras pas le droit de truquer le quiz.
Oui, exactement.
Alors, un vrai gagnant.
Bon, mes amis, premier débat, l'icône Rocky, la saga Rocky. Donc, vous avez vu le premier épisode ce soir. Rocky, personnage créé par Sylvester Stallone dans les années 70, qui est devenu un tel mythe que le poids lourd de Philadelphie fait partie de la culture de ce sport. Tiens, un dernier exemple en date. Sylvester Stallone était invité d'une conférence de presse. C'était cette saison, c'était au mois de novembre dernier, lors d'un combat qui n'a pas eu lieu, qui a été annulé, entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, l'Ukrainien, les deux grandes stars donc, de la catégorie poids lourd, ou l'une des deux en tout cas, c'était pour la promotion du combat. Alors, faut-il considérer Rocky comme une icône de la boxe? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, le premier coup de gong va retentir, on y va. Pia, vous m'avez répondu oui. Guillaume est plus cartésien, du mal peut-être, a répondu non. Guillaume, est-ce qu'on écoute Pia?
Et puis après,
vous contrez?
Ouais, enfin, pas en boxant, non.
Hein? Non.
C'est vu les petits points que j'ai?
Une toute petite chose. Oh, la petite chose. Pia, vous nous répondez oui. Quels sont votre ou vos arguments?
Je vous réponds oui parce que icône, ça vient du grec, ça veut dire image.
Ah bah là, c'est là, j'ai perdu.
Et en fait, Rocky incarne la boxe. Il n'a pas existé, même s'il est inspiré d'un boxeur qui a vraiment existé, qui s'est battu contre Mohamed Ali. Mais il incarne la boxe dans le sens où il incarne ce qu'il y a de plus bouleversant en fait dans la boxe, c'est-à-dire le fait de persévérer, le fait de bosser, le fait d'avoir du cœur, le fait d'être courageux. Et c'est pour ça, sans doute, que finalement, c'est le nom le plus connu de la boxe avec Mohamed Ali. Vous ne trouverez personne de plus connu.
Ok. Au bord du chaos, mais attention, il n'est pas compté 8. Il réagit Guillaume Dufy.
À côté de Rocky et de Mohamed Ali, on peut aussi citer Tyson. Je pense que si demain tu fais un sondage dans la rue, Tyson va arriver très rapidement. Non, moi c'est une icône du cinéma, c'est un film légendaire, on l'a tous vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on connaît la musique, on connaît les marches, on connaît les rues de Philadelphie, les gosses qui suivre Rocky lors de son entraînement, mais ça peut pas être une icône de la boxe. Il sait pas boxer, quoi. Les images des combats sont... voilà, ce sont des images filmées de sport, et le cinéma de sport, c'est compliqué.
Il allait dire pathétique, mais non, pas très.
Non, j'ai hésité parce que ouais, s'il est là, sens, s'il arrive, c'est jamais, parfois vous faites des surprises.
Et Sylvester Stallone va arriver en direct dans l'équipe du soir.
C'est une icône de la boxe.
Dans quelques minutes.
La prod a fait d'énormes progrès. C'est un sosie, hein, qui va faire jus pontoise.
Si vous me coupez, vous n'avez pas droit au taxi, vous rentrerez à pied, mon petit Bernard. Attention, faites très...
Tous les gosses qui vont courir après. Dans les rues de Paris, ça va être magnifique.
Ouais, ça vous ferait du bien, on marque un petit footing. Bon, faut-il considérer Rocky comme une icône de la boxe? Elle a dit oui, il a dit non. Vous allez sur le site L'Équipe. Président, c'est à vous de jouer.
Moi, je dirais par KO, Pia. Parce que, bien sûr qu'il a jamais boxé, on le sait, mais la question, je la prends à travers un film, il incarne tout, il vient de la rue, de la pauvreté, il se bat, il a des soucis, personne ne croit en lui, même son manager, etc. Et il va réussir, enfin, l'impensable. Alors, bien sûr, c'est un show à l'américaine, le champion lui donne sa chance, tout ça s'est monté, ok, c'est Walt Disney, mais... Et moi, quand tu parles de Stallone, il a fait d'autres films, mais tu penses obligatoirement à Rocky Balboa, tu penses à la boxe, et je pense qu'il a aidé.
Rambo.
Mais si, non, mais il y en a d'autres. Non, mais moi, plus à Rocky que Rambo, l'homme solitaire, mais c'est une icône, parce qu'il fait, bien sûr qu'il n'a jamais boxé, mais il fait partie de cette légende, de cette boxe. Il a même peut-être amené d'autres personnes à aimer la boxe.
Bernard a écouté donc le verdict du président. Il y a des trucs que vous partagez, il y a des trucs que
je comprends
pas.
L'argument qui est très bon de Pia et le réquisitoire de Rico Laplacha à repasser, mais je crois qu'il y a un gros malentendu. Que le Rocky soit une icône du sport, au cinéma, ça oui, parce qu'il a fait rentrer le sport dans le cinéma. Comme l'a dit très justement Guillaume, c'est compliqué de filmer, d'adapter du sport au grand écran. Il y a eu des tentatives. Et la première tentative réussie, je suis pas un grand cinéphile, mais me semble-t-il, c'est en 76, c'est le premier Rocky. Après, on a eu Coup de tête de Jean-Jacques Hano, mais c'est bien plus tard. Souvenez-vous, à nous la victoire, c'était en 81. Après, tiens, l'enfer du dimanche avec Oliver Stone, c'est 99, où ça, c'était beaucoup plus réussi, mais c'était en toile de fond le football américain. C'était pas le cœur du sujet. Là, le cœur du sujet, effectivement, c'est l'épopée, l'aventure humaine d'un homme à travers la boxe, mais c'est beaucoup filmé à travers le prisme du sport, des combats, et ça, c'est, même dans Coup de tête avec de Jean-Jacques Hano, Patrick Devers, on a tous les répliques en tête, etc., mais plus pour le personnage que pour le sport qui est raconté. Mais... Et je trouve que c'est pour ça que je suis moi tout à fait d'accord avec Guillaume, il y a une espèce de petit malentendu là-dessus, parce que tu n'enlèveras jamais dans l'esprit des gens Marcel Cerdan, Mohamed Ali... Et
on va dissiper ou peut-être accompagner encore ou cultiver ce malentendu, Bernard. On est en 2020, on a un vrai combat. Vous allez voir ces images, c'est Tyson Fury, qui est un vrai boxeur, hein, qui est la référence des poids lourds. Il va rentrer sur scène. Et regardez ce coquin, ce qu'il nous prépare, Tyson Fury. Il est là, il est tranquille, il est en peignoir noir. Je vais pouvoir filmer les images, mais l'effet de surprise est moins bien.
On peut dessiner hein, aussi rapidement.
Est-ce que vous avez l'image ou pas? Voilà, regardez. Et regardez ce qu'il affuble, ce costume. Apollo Creed, le fameux costume donc du rival virtuel, évidemment, qui n'a jamais existé. Mais toutes ces références-là, on a l'impression qu'elles ont été prises, mâchées... assimilés par le monde de la boxe, elles sont là, comme si finalement Fury se remet dans la peau d'un boxeur qui n'a jamais existé. C'est fou quand même, entre un film, une fiction et le monde de la réalité.
Mais parce que c'est la première réussite, j'insiste là-dessus. On n'arrive pas, et même derrière, on a eu du mal à filmer le sport au cinéma. Les cinéastes se sont souvent cassés la figure là-dessus, et là, ça a été une réussite, hein, parce qu'après, derrière, on est parti sur une saga de 6 épisodes. Donc après, raccrocher une performance sportive, un show, parce que les combats de boxe, c'est des shows à l'américaine, à un carton au box-office, comme ont été les Rambo, parce qu'il y en a eu, les Rocky, lapsus révélateur, ben c'est normal, ça fait partie du jeu.
Un invité surprise que vous ne connaissez pas. Il est historien du cinéma. Il est auteur de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière aux éditions Leitmotiv. C'est David Da Silva. Ça fait plaisir, ça fait classe d'annoncer un historien comme ça dans notre programme. Bonsoir David.
Pia qui parle grec, un historien.
Bonsoir David. On est dans l'imaginaire, mais pour vous, vous pouvez participer au débat. Rocky, il est considéré, ou on doit le considérer presque comme un boxeur, de manière à part entière.
Véritable boxeur, non. Parce que c'est vrai, comme ça a été dit sur le plateau, techniquement, les combats ne sont pas très réalistes. Rocky, qui combat sans garde et qui prend énormément de coups, c'est pas très réaliste. Par contre, l'ambiance, les entraînements, tout ça, c'est assez réaliste. Et puis surtout, il donne l'inspiration, c'est-à-dire qu'il donne l'inspiration aux spectateurs de pratiquer la boxe. Donc, en ce sens, il est quand même important pour de vrais boxeurs.
On va juste vous mettre un peu sur pause, David. Mais aujourd'hui, donc, toute la chaîne a fait une promo Rocky. Il y avait dans l'équipe de choc un champion du monde, un champion olympique, c'est Brahim Asloum. Il parle de Rocky. Et vous allez voir, il en parle presque comme d'un confrère. Regardez.
C'est l'histoire de mec qui est un peu paumé dans sa vie et qui trouve la boxe comme un levier, qui s'entraîne, qui fait tout son premier quartier, sa famille, et puis qui rayonne à travers le pays en lui-même et le monde entier. Mais sincèrement, c'est le boxeur du peuple, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un boxeur du peuple.
Tu t'es déjà entraîné avec cette musique en fond ?
C'est sûr.
Évidemment. Ouais, je vais en permanence à la salle et ça m'arrivait, comme chaque boxeur, de rentrer avec sur le ring.
Ah ouais ?
Ah oui, je pense qu'on l'a tous fait une fois dans notre carrière.
Benjamin, alors vous êtes quoi ? Vous êtes plutôt Pierre ou plutôt Guillaume ? Plutôt même le président ou pas ?
Non, je suis plutôt cartésien, effectivement.
À vous, c'est le cinéma, le reste du cinéma, il n'y a pas,
voilà,
pas de mélange.
Exactement. Ouais. J'ai maté 3-0 avec Tibor Kovacs, et c'est pas pour autant que Laurent Dutch a été une légende du football pour moi. Donc non, moi je suis très cartésien. Marcel Tardon,
mais Rocky, c'est un phénomène mondial quand même. Hein.
Et effectivement, ça, c'est vrai, des athlètes qui ont marqué leur sport par des performances majuscules. C'est pas le cas de Rocky, même si effectivement, je note totalement que d'un point de vue de sociétal, c'est aussi, ça représente aussi quelque chose. L'entre-deux-guerres, l'après-guerre, l'évolution de la boxe aussi par l'évolution de la société. Voilà, c'est aussi ça que représente Rocky. Mais non, pour moi, les athlètes de haut niveau, de très très haut niveau, c'est grands boxeurs. Ça,
on n'y touche pas.
On n'y touche pas. Exactement.
C'est pas de la fiction.
Des légendes.
C'est pas la fiction. C'est pas la question.
Enfin, tout part d'un vrai combat. Et on va revenir avec notre historien David Da Silva. David, vous êtes là. Hein, je vous ai pas mis sur. Je vous ai mis momentanément sur le côté, hein, mais vous revenez sur le ring, mon cher David. Hein. Tout part d'un vrai combat. Mohamed Ali contre Chuck Wepner, nous sommes le 24 mars 75. Racontez-nous, parce que c'est un vrai combat qui a inspiré Stallone. Racontez-nous.
Bah écoutez, c'est quelques mois après le combat de Mohamed Ali face à Foreman. Et puis, ça devait être un combat facile pour Mohamed Ali, donc il prend un boxeur un peu inconnu. Et puis, le combat se déroule pas comme prévu, c'est-à-dire que Mohamed Ali a beaucoup de difficultés à le contrôler. Et puis, Mohamed Ali va au tapis, je crois, au 9e round. Donc, ça surprend tout le monde parce que Chuck Wepner, personne ne le connaissait. Et puis, finalement, Mohamed Ali réussit à le mettre KO au 15e round, très difficilement. Et puis, il y avait, d'après la légende, Stallone dans le public, et puis il est impressionné par le combat de Chuck Wepner, et puis il décide de s'inspirer de ce combat pour écrire Rocky.
Y a beaucoup de légendes qui tournent autour des films de Stallone et du personnage de Rocky. Y en a une, alors en général c'est souvent invérifiable. Et là, il se serait blessé lors de notamment la fameuse scène, il serait fait un claquage à la cuisse lors de la montée des marches, là, lorsqu'il fait son fameux jogging.
Oh le sport.
Philadelphie. Y a évidemment des choses invérifiables. Est-ce que vous avez aussi écrit sur Stallone, sur Rocky, est-ce qu'il y a des légendes, d'autres exemples d'anecdotes ou de légendes un peu invérifiables?
Bah disons qu'on ne sait pas trop comment il a eu le rôle de Rocky, c'est-à-dire en fait comment il a réussi à vendre le scénario au producteur. Et c'est ça qui a participé à la légende du film. C'est-à-dire que souvent on pense qu'il a écrit le scénario en étant un petit acteur inconnu et il a réussi à convaincre deux producteurs de financer le film. Alors, apparemment, ça se serait pas passé comme ça. En fait, c'est les producteurs qui l'auraient plutôt repéré dans un film où il avait un second rôle, qui s'appelait Les mains dans les poches. Donc en fait, c'était pas lui le demandeur, mais il a été demandé. C'est-à-dire que c'est les producteurs qui l'ont fait venir et pour discuter d'un projet qui ne s'est pas fait. Et là, il a proposé l'idée de Rocky Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est voilà.
Ok, David,
moi, j'ai une question à vous poser parce que j'ai cru entendre dire que c'était d'abord un petit budget $1 million à l'époque, mais c'était quand même de l'argent, mais qu'il a rapporté $227 millions le premier ou les six, parce que ça a été un jackpot terrible, quoi. C'est un des plus grands succès financiers avec un budget à la base de rien du tout. Enfin, $1 million, peut-être il y a 40 ans, c'était quand même un peu de sous.
Ouais, c'était le budget moyen d'un film à l'époque. Donc, mais effectivement, il a rapporté 200 et quelques, le premier. Et en fait, tous les autres films ont très, très bien marché. Et je crois que celui qui avait le mieux marché, c'était le 4, lorsqu'il combat contre le soviétique.
Bah oui. Donc, il a dépassé le milliard. Il a dû faire 1,3 milliard, 1,4 milliard. Les 6, hein,
ouais,
la saga.
Il faudrait voir, mais... Ouais, bah, oui.
Ah, j'aimerais bien avoir ce type d'idée, quoi.
Non, mais je... Bah oui. juste une question sur les légendes. Est-il vrai que Mohamed Ali n'a pas aimé ce film? Vous l'avez entendu, ça, que Mohamed Ali n'a pas aimé le... Alors, le premier, Rocky, peut-être qu'après, il a aimé, mais il n'avait pas aimé.
Alors, effectivement, ça a été dit que Mohamed Ali n'avait pas aimé le premier. Il avait dit que c'était, pour les Blancs américains, une façon de se venger de la domination des poids lourds afro-américains dans la réalité. C'est-à-dire que c'était une espèce de vengeance à travers la fiction. Donc, surtout que bon, il avait bien vu que le personnage d'Apollo Creed est tel qu'il est incarné par Carl Weathers. C'était lui, quoi. Donc voilà, apparemment, il aurait effectivement critiqué le film.
La chaîne L'Équipe donc diffuse pour la première fois cette saga ce soir. Rocky, c'est Stallone, et Stallone, c'est un peu Rocky. Les prochains épisodes vont montrer l'évolution du personnage de Rocky, mais également tout en montrant l'évolution du vrai personnage, enfin du vrai acteur, Stallone. C'est bien ça, ça se confond tous les deux, là, entre Stallone, Rocky, et Rocky, Stallone.
Effectivement, il y a un vrai parallèle entre les deux. Dès le premier film, en fait. C'est-à-dire que Stallone, c'était un petit acteur inconnu qui réussit à avoir le premier rôle d'un film qui va gagner l'Oscar du meilleur film en 77. Et c'est en parallèle avec l'histoire de Rocky Balboa, qui est un petit boxeur qui réussit à avoir un combat pour le titre de champion du monde. Et puis ensuite, dans tous les autres films, il y a un vrai parallèle avec la vie de Stallone. Par exemple, Rocky 3, c'est comment gérer le succès, avoir peur de tout perdre. Dans Rocky 5, Rocky Balboa entraîne son fils. Et le fils est incarné par le fils de Stallone. Donc voilà, il y a vraiment une lecture, une double lecture dans la saga.
C'était David Da Silva en direct sur la chaîne L'Équipe, historien du cinéma, et présent ce soir donc dans L'Équipe du soir. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos lumières. Et très bonne soirée à vous. Nous allons continuer l'émission. Mais juste avant de la continuer, il y avait une petite rixe entre... Merci, David. Une petite rixe entre Pia et Guillaume. Alors, finalement, qui s'impose? Est-ce Guillaume ou Pia? Pia, 57-43. C'est votre semaine, Pierre, je pense. C'est
un truc comme ça. Apparemment.
C'est un truc comme ça. C'est la semaine également l'Inter, ma chère Camille.
Une semaine sur 52, ça fait pas beaucoup, quand même.
Mmh. Bah oui, mais c'est déjà ça. C'était la semaine de l'Inter également. Camille Macali, ce soir, l'Inter, titré champion d'Italie, 2-1 à Milan, chez le rival.
Et oui, ironie du sort, c'est sur le terrain de l'adversaire du Milan que l'Inter décroche son 20e titre de Serie A. 9e titre pour Simone Inzaghi en tant qu'entraîneur. Premier Scudetto. Et l'Inter qui prend de l'avance dès la 18e minute après ce corner de Di Marco. Pavard dévie pour Acerbi. Marcus Thuram offre le break ensuite aux Interistes avec un peu de réussite. Le français se défait de Tomori avant de conclure du droit. 12e but de la saison en Serie A pour Marcus Thuram. Dans les dernières minutes, le Milan réduit l'écart par Tomori, mais ça ne changera rien. Score final 2-1, l'Inter était inarrêtable. L'Inter qui a écrasé la Serie A cette année. 86 points ce soir, 17 de plus que le Milan, son dauphin.
Ouais, reste encore 5 journées pour évidemment accroître cette avance et ce total. Alors, ça vaut quoi l'Inter, la version 2023-2024? C'est quoi le cru de ce champion? Est-ce que c'est un grand cru, un petit cru, un bon cru? Qu'en pensez-vous, Benjamin, tiens?
Plutôt un grand cru, même si le championnat italien n'est pas le meilleur championnat de cette saison. Ça reste quand même un championnat assez conséquent en Europe. Je note qu'il y a trois clubs encore qualifiés en Coupe d'Europe. Voilà. Que ce soit l'AS Roma, la Fiorentina et, si je ne l'oublie pas, l'Atalanta Bergame. Mmh. Offensivement, ils ont été la meilleure attaque et de loin de leur championnat. Ils ont été de loin la meilleure défense. Que trois défaites. La dernière en championnat, elle remonte à septembre. Alors, on peut toujours dévaloriser les adversaires, mais pour le coup, cette saison, l'Inter Milan a quand même été injouable. Mmh. Gagner ce 20e titre, c'est pas anodin. C'est la deuxième étoile sur le maillot. Ça reste quand même quelque chose d'historique. Et que ça intervienne sur ce match contre l'AC Milan, ça va rendre cette saison énorme, d'autant plus points. Historique pour l'Inter. Donc, si le PSG avait fait ce qu'a fait l'Inter Milan cette saison, on aurait tous dit que c'était remarquable.
Dans votre inventaire, vous avez un truc, parce que là, on a Bernard. Je pense que vous avez écrit pas mal de bouquins dans votre carrière, en dehors de l'équipe, et notamment des bouquins sur les maillots, parce que vous êtes passionné par les maillots. Et là, Benjamin nous a dit un truc sur les étoiles. Là, qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous.
Ouais, ça célèbre 10 titres de champion.
Une étoile, ça vaut 10 titres.
Ouais. Mmh. Enfin, après, ça c'est pas une règle écrite, parce que ça dépend aussi des pays. T'es pas obligé de la mettre systématiquement, mais pendant très très longtemps en France, il y a qu'un pays qui avait l'étoile. Elle était pas jaune, elle était tricolore. C'était la Saint-Étienne. Mmh. Je crois qu'il y a un club, je m'en rappelle plus, qui en a maintenant une aussi.
Marseille.
Me semble-t-il.
Je peux vous aider. Marseille.
Mmh. Mais Marseille l'a mise, alors que oui, il y a eu pas une réglementation très très précise, mais.
Mais là, 20 titres, là, il y aura la deuxième étoile, ouais, là, pour l'Inter.
Parce qu'en Italie, après, ça dépend des pays, mais je rebondis sur ce que disait. Benjamin, un instant, moi, ça me fait toujours un peu sourire, la Serie A, c'est plus ce que c'était, il n'y a plus les champions que c'était. L'Inter, est-ce que c'est un grand champion? Tu te rends compte qu'en Coupe d'Europe, il y a encore trois clubs italiens en demi-finale. L'année dernière, il y en avait combien?
Mais pas dans la grande compétition européenne.
Il y en avait combien l'année dernière?
T'en es moins.
L'année dernière, il y en avait un en finale, quand même.
Mais en Champions League, il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? À part l'Inter, cette saison, qui est éliminée en huitième.
Et l'AC Milan
qui s'est fait sortir déjà aussi.
Il n'y avait aucun club italien.
Je te parle de cette saison.
Au-delà des détails, vous voulez en venir où?
Mais je veux en venir que le niveau de la Serie A, c'est pas parce que la Juve n'écrase plus tout que c'est un championnat qui doit être dénigré. L'année dernière, Naples a été un très grand champion d'Italie. Ils ont terminé avec 90 points. À 5 journées de la fin, l'Inter en compte déjà 86. Ils ont perdu que 3 matchs dans la saison. Je dis pas que c'est du niveau de la saison du Bayer Leverkusen, qui est le seul club en Europe invaincu. Gilles, tu perds contre Sassuolo en début de saison, tu perds en huitième de finale contre Bergame, et après contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Ils ont le meilleur buteur du championnat avec Lautaro Martinez. Ils ont la meilleure paire d'attaquants.
Les deux des deux meilleurs passeurs aussi. Avec Mkhitaryan et Thuram.
Et Marcus Thuram. Je veux dire, c'est une équipe. OK, ils ont été éliminés au tir au but. Il y a un accident contre l'Atlético Madrid. Moi, je les voyais aller beaucoup plus loin cette année en Ligue des Champions. Mais ils n'étaient pas sortis non plus en huitième de finale.
C'est la réussite.
Mais l'Inter succède au palmarès au Napoli.
Qui a explosé en plein vol, environ 12 entraîneurs en 6 mois.
Mais tous les titres se valent pas, non? Entre le titre l'an dernier du Napoli, c'était un titre qui était longtemps attendu, le premier titre de champion depuis Maradona.
Bien sûr.
Moi, je me souviens, tous les titres se valent pas. On a Liverpool, 2020-90, on a le Bayern, c'est le premier titre.
Mais
on a,
non, mais vous voyez, moi, j'entends tout ce qui est dit, et je vois pas le football italien de A à Z. Mmh. Et l'Inter est un très grand champion, il a rien volé. Ah, mais quand à 20 points d'écart, et on parle en France, mais quant à les budgets similaires, parce que tu les as pas en France.
Non.
D'accord, t'as 800 millions, le suivant, il est à 250, grosso modo. Eux, la Juve, même s'ils ont des soucis, ils ont un budget qui est au moins à 500 millions, dans ces eaux-là, 450. La Roma, tout ça, tous ces clubs.
Le Milan.
Le
Milan, il y a quatre gros clubs.
Voilà. Et quant à 20 points, ça veut dire que c'est pas de la faute de l'Inter. Mmh. Mais ce championnat, je suis désolé, il n'y a pas de soucis, mais il tient pas la route.
Ouais, il manque de compétitivité.
Pour moi, parce que si en Angleterre, ça peut pas exister d'avoir autant d'écart. En Espagne, non plus. 20 points sur le deuxième, qui lui-même en a peut-être 5 sur le troisième et 5. Bon, à un moment donné.
C'est un argument, ça.
Mais que tu peux démonter en disant que l'Inter a été exceptionnel en ne perdant qu'un match, un match de championnat.
Ouais. Un match de championnat.
C'est un match.
Septembre.
Donc, peut-être que se sont pris le tapis, mais l'Inter, c'est
d'accord,
exceptionnel.
Mais
avec aussi, parce que là, on parle pas de jeu, de foot. Mais c'est aussi la victoire de Simone Inzaghi. Ouais. C'est un garçon qui a su prouver au monde entier qu'on pouvait briller dans son championnat et aussi en Europe avec deux attaquants. Mmh. Et ce que font Lautaro Martinez et Marcus Thuram depuis le début de la saison, c'est aussi fantastique. Mmh. Et c'est une équipe hyper belle à voir. Je me souviens du deuxième match retour contre l'Atlético Madrid. J'ai trouvé que ça avait été l'un des, pour moi, l'un des plus beaux matchs de la saison. Je trouve ça remarquable.
Pierre, vous nous dites quoi là? J'ai l'impression que vous voulez nous parler du coach Simone Inzaghi. Pas du tout.
Bah aussi, en fait, ce qui est beau, je trouve, dans la saison de l'Inter, c'est déjà, je rebondis sur ce que tu dis, Guillaume. Je suis complètement d'accord. J'adore voir jouer l'Inter. C'est une équipe qui est agréable à voir jouer parce qu'elle sait où elle va et c'est une équipe qui sent l'équipe construite intelligemment. Ça se voit dans le jeu, ça se voit dans le résultat. Ils ont beaucoup d'avance. En Ligue des Champions, on a envie de les voir continuer, alors que voilà, moi, je suis pas interiste et pourtant, j'ai envie de les voir jouer. Donc oui, il y a un coach intelligent, il y a un travail sérieux qui est fait petit à petit. Et accessoirement, si tu regardes le classement des UEFA des clubs sur les 5 dernières années, ils sont quand même 6e. C'est pas rien, quoi. 6e, ils sont juste derrière Liverpool et le PSG. Donc, c'est une équipe qui travaille très bien.
C'est ce qui rend leur saison d'autant plus frustrante parce qu'on est des champions cette année. Effectivement, ouais. On pensait aller plus loin. Ils finissent
deuxième
de leur groupe derrière la grande Real Sociedad qui a failli éliminer le PSG quand même. Et ils se font sortir.
C'est terrible, Real Sociedad.
Malheureusement, contre l'Atlético Madrid, mais qui se fait sortir dans la foulée par Dortmund. Donc, c'est vrai qu'il y a un manque quand même.
Non, mais vous voulez sûr
cette saison en Coupe d'Europe.
Non, mais c'est un très beau champion et tout. Il y a de la qualité. On ne peut pas citer tous les jours, on les connaît. Mais vous les surdimensionnez. Et Inzaghi, vous le surdimensionnez. J'attends de voir. Parce que 20 points d'avance, ça a l'impression. Bien sûr, ça pâte ou j'attends de voir. Inzaghi, j'attends. Je ne suis pas italien. Et puis. D'autres clubs auraient été éliminés par l'Atlético en 8e, vous ne tiendrez pas ce
non,
discours-là.
Le Bayern Leverkusen écrase la Bundesliga.
Non, mais c'est du fait.
Tu perds pas 9-0 et 3-0.
Mais oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai assez entendu ici où quand tu perds en 8e et il n'y a que la défaite et le ceci et cela, ben, c'est une catastrophe pour l'Inter se faire éliminer en 8e. Je suis désolé de le dire.
Président, victime des conversations qu'il a dans l'équipe du soir. Dans quelques minutes.
Mais ça ne remet pas en cause.
Non, sportif.
Non, industriel, parce que ils étaient pour mais ils étaient quand même en finale l'année dernière et ils étaient plus forts cette année que l'année précédente.
Pause.
Ah, ils ont perdu dans un Atlético de Madrid.
Avant les deux coups de minuit, on parle du sacre de l'Inter. Dans quelques minutes, les images. Un succès 2-1 donc sur la pelouse de l'éternel rival, le Milan AC. Que vaut ce titre? Le vil peuple a tous dit, mais non, mais ce travail de Simone Inzaghi, cette équipe bien construite, qui joue bien, etc. Et puis, il y a notre Ricky qui dit, bah oui, mais plus de 20 points d'écart, mes amis, ça vaut quoi le championnat italien? Voilà. Moi, je reviens.
Champion face à un gros Atlético de Madrid qui a passé le tour suivant.
Moi, je reviens pour juger le titre et le sacre de l'Inter sur la propre histoire de l'Inter. L'Inter, c'est en 2010, c'est un doublé, Ligue des Champions, championnat, c'est en 65 un triplé. Est-ce qu'il faut juger cet Inter, c'est-à-dire avec sa propre histoire, avec son propre palmarès? C'est-à-dire que, oui, malheureusement, il y a eu cet accident en Ligue des Champions. Ce sera un grand champion d'Italie, mais ça ne restera pas un grand cru.
Mais non, mais l'Inter, il ne faut pas non plus la juger sur juste quelques matchs de championnat cette saison. C'est un club qui va de mieux en mieux et qui comptera encore sur la scène européenne l'an prochain. On oublie trop vite parce qu'on oublie tout ici. Mais l'an dernier...
J'ai pas oublié, là. L'an dernier,
c'est quand même le finaliste de la Ligue des Champions.
Ouais.
Et il n'y en a quand même pas beaucoup qui arrivent à accéder à cette finale. Nous, on attend ça avec une certaine impatience depuis une éternité, même si... Tout est permis, mais voilà, l'Inter, l'an dernier, a accédé à cette finale avec des concurrents incroyables et en ne volant pas sa place. Et l'an prochain, je peux vous assurer que l'Inter, qui est un club qui attire de plus en plus, Thuram, il avait l'embarras du choix. Marcus Thuram, il avait l'embarras du choix. Il aurait pu venir ici, paraît-il, à Paris. Il a choisi l'Inter. Bon, voilà, je pense que d'autres voudront à un moment travailler avec Simone Inzaghi. Mmh. Voilà. Je pense que d'autres voudront travailler avec Simone Inzaghi.
Il choisit là où il est pratiquement sûr de jouer et il a entendu sûrement le discours de l'entraîneur et que son père lui a dit c'est une étape et l'Inter c'est sûrement mieux que le Paris Saint-Germain qui était quand même. C'était compliqué, on savait pas trop où ça allait avec Messi, Neymar pas là, Luis Enrique qui arrive, je suis désolé. C'était quand même plus compliqué.
Pourquoi tu dis un mais sur ce que je viens de dire?
C'est un choix intelligent.
Non. C'est un choix intelligent. Tu réfléchis, tu causes avec ton papa, avec ton agent, avec le coach, et puis tu as des garanties, tu y vas.
Voilà. C'est ce que je viens de dire. Il y va sportivement. Parce qu'il a du temps de jeu, c'est ce que j'ai dit. Toi, tu avais l'impression de dire il allait à l'Inter de Milan parce que c'était,
je dirais là.
Pas la facilité, il aurait pu aller au Paris Saint-Germain. Bon. Enfin, où j'ai mal compris. D'accord. Je pensais que j'avais cru comprendre que.
Alors, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. C'était plus simple pour Marcus Thuram d'aller à l'Inter que de venir au Paris Saint-Germain.
Bah, ou Paris.
Parce que toi, tu penses que tu arrives.
C'est la grande nébuleuse.
Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas un joueur, il n'y a personne.
Il y a Zeko.
Et donc, tu es sûr, voilà. sûr de jouer.
Bah, plus sûr qu'au Paris Saint-Germain où c'était le grand brouillard. Il y a Messi, Neymar qui s'en vont et Verratti. Luis Enrique arrive. On attend même, son arrivée, quoi, parce que c'était compliqué, on savait pas. Il y a Colomouani, bon, à la fin. Thuram, s'il était venu, Colomouani serait peut-être pas venu, mais c'est compliqué. Moi, enfin, l'Inter, c'était plus simple. Il venait d'être.
On décrypte, c'est en train de nous expliquer que.
Bah, ils étaient finalistes de la Ligue des Champions.
De seconde zone, qui venait juste d'être finaliste de la Ligue des Champions.
Si, si, si,
et deuxième que, de toute façon, il était absolument sûr de jouer.
Voilà.
Et l'Inter, qui a perdu il a 3 matchs dans la saison, il y a très, très peu d'équipes. Il y a très, très peu d'équipes.
Bon, d'accord. Donne-moi les. Alors, tu connais l'équipe par cœur de l'Inter. Moi, je la connais. Dis-moi les attaquants. En ce moment de l'Inter de Milan, à part Lautaro Martinez, qui joue. Dis-moi le troisième, comment il s'appelle. Dis-moi le quatrième, comment il s'appelle. Dis-moi le troisième et le quatrième.
Il va vous les donner. Il va vous les donner.
C'est qui
Il va vous les donner.
Il vient de lui dire, Benjamin. Il sait rien. Donc, moi, et tu veux que je te dise, je suis honnête. Je ne les sais même pas le troisième et le quatrième. Je te l'ai dit au bluff, tellement on ne sait pas leur nom. On ne sait que Thuram et Lautaro Martinez.
Pardon, mais les téléspectateurs, c'est qui le deuxième?
Non, mais c'est la réalité, moi je le dis.
Il y avait par exemple un joueur qui joue à Marseille.
Voilà.
Alexis Sanchez.
Oui, par
voilà, Alexis Sanchez. Ok, très bien.
Qui était tellement nul qu'il est allé jouer à l'Inter.
Camille Macali, le
merci
sacre
Benjamin.
De le sacre de l'Inter.
Mais c'est pas grave.
Merci Bernard. Arrête, Bernard.
Mais je te dois tout.
Mais
c'est pas grave. Tu ne reconnaissais pas moi quand je reconnais. Je sais pas. Je viens de te le dire. Je suis honnête.
Mais parce que je croyais que tu plaisantais.
Mais non, mais
le sacre de l'Inter face à Milan. On y va mes petits.
Mais arrête.
On y va mes petits. Ça va cartonner.
L'Inter qui décroche son 20e titre de l'histoire. Un de plus que le Milan, son rival chez qui elle a remporté ce soir. 9e titre pour Simone Inzaghi. En tant qu'entraîneur, son premier scudetto. L'Inter qui prend l'avantage à la 18e minute après un corner de Di Marco. Pavard qui dévie le ballon pour Acerbi qui conclut de la tête. Marcus Thuram qui offre le break aux interistes avec un petit peu de réussite. Le Français se défait de Tomori avant de conclure du droit. 12e but de la saison pour Marcus Thuram en championnat. Et dans les dernières minutes, le Milan réduit l'écart avec Tomori. Score final 2-1. L'Inter qui a écraser la Serie A, on l'a dit.
Bologne. Les jeux de son papa.
Ouais.
Il est champion, ça c'est quand même anecdotique, mais 22 ans après le second titre de Lyon.
Bologne conforte sa 4e place, un succès donc à la Roma, 3-1.
Deuxième défaite de l'ère De Rossi depuis janvier en championnat. Après un quart d'heure de jeu, Bologne profite de la passivité romaine, décalée côté gauche, Calafiori pique un centre vers le point de pénalty et El Azouzi s'envole pour un retourné acrobatique. Magnifique but du Marocain. À la 65e minute, Salemakers refait le break suite à une contre-attaque fulgurante. Il pique son ballon et trompe Svilar, le gardien romain. Score final 3-1 pour Bologne. L'équipe de Thiago Motta, là aussi, on connaît tous, qui prend 7 points d'avance sur la Louve 5e ce soir et qui fait donc un grand pas vers la Ligue des Champions.
Un écho, J-9, Dortmund-Paris Saint-Germain, vers un forfait dans les rangs du Borussia.
Sébastien Haller ne devrait pas être remis pour les demi-finales de Ligue des Champions. On rappelle, face au PSG, 1er et 7 mai prochain, l'attaquant ivoirien, buteur en quart à l'aller face à l'Atlético, a été touché à la cheville le 13 avril dernier face à Mönchengladbach. Une rechute de sa blessure qu'il avait contractée au retour de la CAN. Et à moins d'une convalescence express, son absence est estimée à plus ou moins 3 semaines.
Forfait de taille, forfait remplaçable, Benjamin Courage.
Un forfait important quand même, parce qu'ils ont Fulcrook devant qui peut compenser son absence, mais c'est un profil quand même qui compte, qui est important dans une rotation, même s'il a même démarré plusieurs matchs importants avec Dortmund. Oui, c'est un élément qui compte et qui aurait pu leur manquer sur la. Enfin, à mon sens, qui aurait pu leur manquer sur le quart de finale et qui finalement n'a pas trop été pénalisant pour leur équipe, mais c'est un joueur important de leur équipe.
C'est une bonne nouvelle pour la charnière centrale du Paris Saint-Germain et pour Donnarumma, pour le. Pour ce qui se passe dans la surface.
Dans la boîte,
trop grand. Sur les coups de pied arrêtés. Mmh. Ah, je trouve qu'il a quelque chose, ce joueur. Mmh. Même s'il joue moins en ce moment, parce qu'il y a une rotation incroyable en Allemagne, mais il est revenu un peu aussi différent de la CAN où il a été le héros. Très franchement, il doit avoir carrément les boules de rater cette demi-finale.
Brest, après.
L'aller.
On verra, ouais. Hein ? On verra.
Oui.
Brest, à présent, fait une superbe saison en Ligue 1, mais fonce vers un véritable casse-tête. La suite, Camille.
Information, l'équipe Étienne Moitié et Franck Le Dors, le stade Francis Leblé, jugé non conforme par l'UEFA pour accueillir des matchs de Coupe d'Europe. Un courrier a été envoyé vendredi par l'UEFA, donc 3 tribunes sur 4 sont montées sur des structures tubulaires, ce qui veut dire des structures métalliques démontables et non en dur. Et dans l'article 18 de son règlement, l'UEFA stipule que les tribunes ne peuvent être basées sur ce genre de structure. Donc deux possibilités pour Brest. Jouer à domicile ces matchs de Coupe d'Europe, mais seulement avec 5000 personnes et uniquement dans la partie des tribunes en dur, ou alors être délocalisé.
On devra se contenter de 5000 places en Coupe d'Europe pour Brest. Est-ce que c'est logique ou cohérent ? C'est la discussion, c'est le débat du Minuit Info. Jingle. Bernard, c'est un peu la mort dans l'âme, c'est l'expression, mais vous vous dites plutôt logique parce que vous avez une référence historique. C'était un 5 mai 92 et on ne peut plus faire n'importe quoi dans les stades.
Mais heureusement, d'une tristesse absolue, avec la tribune montée en tubulaire à Furiani qui s'est effondrée. Et que donc à partir de ce moment-là, on peut que comprendre le principe de précaution pris par l'UEFA. Il y a ce principe-là, mais il y a aussi, je vous rappelle, d'autres principes, notamment les portiques de sécurité. Je me souviens que quand à la Beaujoire, quand c'est Nantes, c'est un stade qui n'est pas si vieux que ça, il n'y avait pas le vitrage sécuritaire adéquat à la Beaujoire. Ils avaient été obligés d'aller louer les portiques d'entrée, vous savez. Tu passes. Oui. À Roland-Garros, ils avaient démonté, ils avaient installé à la Beaujoire. Il y a aussi un truc qu'on a vu sur les images, Francis Leblé, c'est un stade qui est très sympa parce que c'est un stade urbain, mais il n'y a pas possibilité de désengorgement du public en cas de forte affluence. Et on a vu la problématique. Bon, alors, ils n'ont peut-être pas le même préfet de police, heureusement, que lors de la dernière finale de la Ligue des Champions organisée au Stade de France. Mais c'est, en termes d'évacuation, s'il y a des mouvements de foule, ça pose un problème. Et après, en termes d'organisation, on l'a vu vaguement sur les images, mais par exemple, tout ce qui est installation média, car régie, etc., il n'y a pas la place, il n'y a pas de parking. Donc, ils louent le jour des matchs, le week-end, sur le parking d'une école. Mais comme la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, ça se joue la semaine. Ouais. Les cars régis, avec un gros dispositif pour les matchs de Ligue des Champions, même de Ligue Europa.
Journée pédagogique pour les enfants.
Tu les mettras où ?
Oui, d'accord.
Voilà, c'est un stade qui n'est absolument pas adapté. Et encore une fois, moi, je regrette qu'ils ne puissent pas jouer s'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe, et tout le monde l'espère, parce qu'ils le méritent amplement, les Brestois. Mais ce n'est pas raisonnable de jouer à Francis Leblé.
Alors, sur la délocalisation, c'est aussi, et ça va être aussi un vrai casse-tête, puisque jouer à Rennes, on pense tous à Rennes, c'est un club breton, bah il faudrait que Rennes ne soit pas européen, puisque si Rennes donc joue en Ligue Europa, ce sera le jeudi. Donc, pour la veille, organiser un match de Ligue des Champions, là aussi, ça va être difficilement... Aussi,
hein, sur l'inversion,
on peut l'entendre. Voilà. Et qui jouerait tous les mardis.
Location aussi.
Jouer à Lorient, le stade devrait subir des travaux de rénovation la saison prochaine, donc pas certain que Lorient accepte de filer son stade au Brestois, puis reste Nantes. Nantes.
Guingamp bon. Aussi, non ?
Comment ?
Guingamp, non ?
Guingamp, oui, éventuellement. Oui, il y a Guingamp, j'avais oublié. Ah, bah, bravo. Mais Nantes, c'est loin.
On a dit Brest. C'est pas Bretagne, soi-disant.
Oui, on a dit Brest-Nantes. On a dit Brest-Nantes, ça roule bien, mais à 2h30.
Voilà. Pas sûr que ça marche demain.
Si ça roule bien, c'est bien.
Je me souviens de Lille il y a quelques années avant la construction de cette enceinte.
Oui, le stade Pierre-Mauroy.
Non, avait disputé des matchs de Ligue des Champions au Stade de France sous l'ère Claude Puel. Et ça n'avait pas empêché les Lillois de battre notamment Manchester United. Donc tu peux exister sur une épreuve européenne en ne jouant pas
après, chez toi.
Après, voilà, c'est terrible pour les supporters, hein, ça doit être terrible pour les joueurs.
Pour la ville.
Pour les dirigeants, pour la ville évidemment, mais c'est le jeu. Moi je trouve ça par exemple beaucoup plus cruel si on reste en Bretagne, ce que vit Concarneau cette année, qui, parce qu'il monte en Ligue 2, doit faire des travaux hallucinants et ne peut pas jouer la saison dans son stade. Il a été obligé de... Je sais pas, ils en ont eu 4 ou 5 dans la saison. C'est un peu plus cruel que faire quelques matchs comme ça.
Ils sont allés jouer jusqu'à quand, nos amis de Concarneau. Maintenant, il y a une différence quand même, parce que Lille, c'est une grande métropole qui n'est pas très éloigné de Paris.
Lille, 52 Lille, minutes, tu y es.
Voilà, Lille, le Stade de France, c'était faisable. Lille, le Stade
Rennes,
de France.
Stade de France
bon, Brest, le Stade Brest. De France. C'est un peu plus compliqué.
Tiens, vous liez la main. Vous êtes écœuré ou non? C'est malheureusement cruel.
Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
En fait, j'adore Francis Leblé. C'est vraiment un stade qui est hyper, hyper cool parce qu'on sent le foot qui vibre là-bas. Mais je pense que tous les Brestois, ils savent très bien que la réussite de leur équipe, c'est tellement incroyable cette saison par rapport à leur budget, par rapport à leur histoire, etc., que c'est une anomalie. Donc j'imagine, je ne vais pas parler à leur place, mais j'imagine qu'ils sont prêts à vivre des dingueries en se disant, bah voilà, on vit la Ligue des Champions, oui, on peut s'éloigner de Francis Leblay, tant pis, on loue des quarts.
Vous trouvez que la pilule va vite passer.
Et je vais, ils n'auront pas le choix, en fait. Oui, si non, c'est ça, ou jouer à 5000.
Si tu as Manchester City dans ton groupe, tu vas y aller.
Comment ils vont choisir 5000 personnes à Brest qui pourront voir le match? C'est impossible. Et par ailleurs, j'aimerais quand même souligner un petit truc auquel forcément vous n'avez pas pensé, mais ce genre de situation dans le foot féminin, ça arrive tout le temps. Par exemple, je pense aux filles du PFC qui font une saison de ouf et qui sont obligées de changer de stade de temps en temps parce que leur pelouse est trop pourrie. Les filles du Paris Saint-Germain qui ne pouvaient plus jouer à Jean-Bouin parce que c'était un terrain synthétique, ça arrive tout le temps, en fait, ce genre de truc. Ça n'empêche pas les équipes de faire des très bons matchs et le public va se déplacer, c'est tout.
Ils sont derrière leur équipe. Enfin bon, c'est la réalité.
Il
y a personne. Mais bon, mais c'est la réalité de l'AD1. Après, bon, moi, juste une
chose. C'est la réalité de l'AD1 féminine.
Voilà, c'est tout. Oui, voilà. J'y peux rien. Voilà. Mais. Pour terminer, le rugby fait des demi-finales dans le même stade. L'UEFA, moi, je pense que tu peux très bien faire s'ils jouent le mardi, tu les cases pour jeudi. Rennes, s'ils jouent que le jeudi, a priori. Tu peux jouer sur un même terrain.
Gymnastique intellectuelle.
Le rugby, on fait les demi-finales. À Bordeaux cette année, on les faisait à Marseille. Vendredi, samedi, où est le problème? C'est l'UEFA qui l'organise.
Excusez-moi, l'entraînement, imaginons que Rennes soit en Ligue Europa le jeudi, l'entraînement de dernière minute alors que Brest joue le mercredi dans le même stade.
Brest, déjà, tu peux éventuellement dire qu'ils joueront que les mardis.
Tu peux changer le règlement de la Ligue des Champions pour le stade brestois.
Ils peuvent jouer quand même. C'est le fameux quart d'heure. Les équipes de rugby le font.
La gestion des supporters de foot, il parle du galop d'équipe.
On peut avoir Rennes à l'extérieur quand Brest joue à domicile.
Tu peux jouer deux matchs sur le même terrain,
la vérité, c'est l'acceptation des autres clubs qui sont des clubs rivaux et qui n'ont pas envie de s'habiller aux couleurs du club adverse. Ouais. Souvenez-vous quand Lens a fait ses travaux à Bollard pour l'Euro 2016, Gervais Martel qui avait aidé, il serait sur le plateau, il nous l'a raconté. Puis il a sauvé Valenciennes de la faillite en organisant un match de bienfaisance, en laissant toute la recette, en venant lui jouer avec son équipe, etc. etc. Quand il a fait lui renvoyer l'ascenseur, la solidarité des gens du Nord, tout le monde a dit oui, il n'y a aucun problème, mais ils ont mis des coups de massue sur la tête.
Il a joué
à Valenciennes, à Lille, de partout. Mmh. Il a fini par se rabattre à Amiens, qui n'était pas du tout adapté, et ça a coûté le maintien du club.
26 joueurs par équipe pour l'Euro.
Pas que le stade.
C'est pratiquement fait.
Oui, on en prend la direction. Encore une info d'Étienne Moitié qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Réunie ce lundi après-midi, la commission des compétitions pour les équipes nationales de l'UEFA a tranché à un élargissement à 26 joueurs par pays pour l'Euro cet été. Président de cette commission, Philippe Diallo, le patron de la FFF, s'est déclaré en faveur du maintien à 23, même position que son sélectionneur Didier Deschamps. Mais c'est le passage à 26 qui a rallié un tout petit peu plus de suffrages. Reste donc à savoir ce que décidera l'UEFA qui a le dernier mot. On rappelle que les listes doivent être données et annoncées au plus tard le 7 juin prochain. Mmh.
Le programme à présent d'autres bleus du 15 de France pour la tournée d'automne est connu. Donnez-nous le programme, cher Camille.
C'est du costaud, ça va plaire à Rico. Pour les hommes de Fabien Galthié, pour le prochain Automne Nation Series, 3 matchs au programme. Un peu plus d'un an après la victoire en ouverture du Mondial 2023, les bleus retrouveront la Nouvelle-Zélande le 16 novembre au Stade de France. Avant ça, le 9 novembre, la France sera opposée au Japon, toujours au Stade de France. Et pour terminer cette tournée, les bleus retrouveront les Pumas argentins le 22 novembre, toujours à Saint-Denis, évidemment, la France qui se déplacera avant ça, début juillet, en Argentine pour sa traditionnelle tournée estivale.
Du cyclisme à présent, début du Tour de Romandie, demain, ce mardi.
Rendez-vous dès mardi, 14h50, avec Ça va frotter, une start list de dingue pour ce Tour de Romandie, avec notamment côté français David Gaudu et Julien Alaphilippe. Et justement, ce dernier s'explique au micro de Charles-Antoine Noura. Pourquoi il voulait participer absolument à ce Tour de Romandie juste avant le Giro?
J'avais vraiment envie de, de, me faire plaisir d'avoir une semaine dure dans les jambes avec du rythme. Et voilà, c'est, on sera à une semaine du Giro à la fin du Tour de Romandie. J'aurai pas de frein physique à essayer de récupérer ou quoi. Vraiment, je suis là pour donner le maximum, essayer de gagner. Ça serait bien pour le moral, mais aussi physiquement, voir un peu où j'en suis. C'est nouveau pour moi d'aller au Giro, donc j'ai besoin de rythme dans les jambes, mais je pense que d'être ici au Romandie, c'est la meilleure façon d'aborder le Giro.
Voilà, Julien Alaphilippe en direct sur la chaîne L'Équipe à partir de demain. Cédric Doumbé, lui, de retour dans l'octogone.
2 mois après le combat du 7 mars perdu face à Baki, le coup de l'écharpe, on s'en souvient tous, qui lui avait valu sa première défaite en MMA, Cédric Doumbé aura l'opportunité le 17 mai à l'Accor Arena de redorer un petit peu son blason. Le Français, chouchou du public, affrontera Derek Anderson lors d'un événement du Bellator. Peter Murray, le PDG du PFL, c'est l'organisation de l'événement, mais c'est aussi l'organisation avec laquelle Doumbé est sous contrat, a confirmé que la prolongation de Doumbé s'étalerait sur plusieurs années.
Il faut qu'il gagne quand même, je pense. Zachary Risaché se présente officiellement à la draft NBA 2024.
Sans surprise, l'ailier de Bourg inscrit son nom officiellement à la draft 2024. Être appelé dans les 3 premiers par le commissionnaire de la NBA, Adam Silver. Zachary Risaché est l'un des talents les plus prometteurs de la prochaine cuvée de jeunes joueurs qui arriveront dans la Grande Ligue cet été. Le fils de Stéphane Risaché pourrait succéder à Victor Wembanyama, le premier Français choisi en première position de la draft NBA en 2023. Mais il est talonné par un autre tricolore, il s'agit d'Alexandre Sarr. Et à noter que Victor Wembanyama et Rudy Gobert sont en lice pour remporter, eux, le trophée de meilleur défenseur de NBA. Le Français des Spurs fait également partie des finalistes pour être sacré rookie de l'année.
Dingue ! Ça va être gagné, ça. Rookie de l'année, à mon avis. Hein ? C'est pour Victor. C'est tout pour aujourd'hui ou vous avez une image de fin ?
Une petite image de fin.
Une petite ?
Vous avez déjà vu John Textor faire du skateboard ?
Non, pas du tout.
Si, c'est la mode en ce moment. Dès qu'il part au Brésil, il montre ses talents de skateboarder.
Ouais.
Le propriétaire de l'OL est vraiment très à l'aise sur une planche. Il est capable de faire des figures sur un petit half-pipe. Alors, il met évidemment le casque de protection. Le problème, c'est qu'à 58 ans, eh bien, tout n'est pas sans risque. Les médias brésiliens nous ont informé que John Textor a mal fini après une chute. Il s'est fracturé le coude. Et le propriétaire américain de Botafogo, qui s'était rendu justement là-bas pour assister à un match de son équipe, eh bien, n'a pas pu y aller parce qu'il s'est fait opérer à l'hôpital de Rio de Janeiro ce dimanche.
Vivement le carnaval.
Parlons à présent, merci Camille.
C'est dommage qu'on n'ait pas les images.
Vous seriez trop moqué.
Le phénomène Barcola. Semaine incroyable pour Bradley Barcola. Mardi à Barcelone et dimanche au Parc. L'ailier gauche a fait tourner ses 2 rencontres. Hier, Barcola contre Lyon a été impliqué sur 3 buts sur les 4. Il est arrivé donc à la fin du mercato comme un joueur de développement, on va dire, ou un joueur à développer. Et depuis, le joueur, au fur et à mesure des matchs, est devenu un rouage essentiel dans l'attaque du Paris Saint-Germain version Luis Enrique. Alors Barcola est-il passé cette saison de pépite à crack ? À cette question, 4 chroniqueurs pas d'accord. Allez, jingle. Il y a 2 oui, il y a 2 non. L'équipe des oui, Quarez et Mam Clément. Benjamin ou Pia ? Qui commence ?
Allez.
Oui. Ok. Monsieur Dufy, Monsieur Lyons.
Moi, j'aime bien les broussailliers. Il est hyper talentueux. Il a le sens de la formule. Je suis persuadé qu'il va.
Dans les 12 secondes qui vont me rester.
Guillaume, soyez pas trop bavard. C'est le message que vous adresse Bernard. Barcola est-il passé ses saisons de pépite à crack ? Oui. Pierre Clément, à vous de jouer.
J'avoue que je me suis même demandé comment c'était possible de répondre non à cette question, à moins que ça ait été un crack avant d'arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus une pépite. C'est évident. Et ce qui est le plus frappant, c'est que Luis Enrique l'a tout de suite compris, même avant qu'il arrive, puisque c'est lui qui l'a fait venir. Barcola, c'est typiquement le joueur qui va brûler la rétine des supporters du Parc des Princes, qui juste n'ont qu'une seule attente, c'est de crier son nom encore et encore. Il a la classe, il gratte des ballons, il a la grinta, il a une intelligence tactique, il est rapide. C'est exactement le joueur dont on avait besoin et franchement, on est très content de l'avoir.
Un craquage. Et il y a eu un craquage en direct.
Évidemment, si Luis Enrique l'a dit, c'est que ça doit être vrai, mais craque, la définition de craque, moi, ça m'échappe un peu. Crack comme Bellingham, crack comme Foden, crack comme Da Silva, crack comme Kylian Mbappé, très franchement, il est prometteur, ce garçon. Mais il atteint pas la cheville des gens que je viens nommer. Donc très franchement, j'ai hâte d'avoir la définition de crack par Benjamin.
Benjamin Quarez, à vous de jouer.
Il n'a que 1 an et demi en professionnel, ce qui fait déjà qu'il va très très vite. Et puis pour moi, il y a les marqueurs importants pour définir un crack. C'est les matchs de très très haut niveau. Il s'est rendu indispensable pour son équipe du Paris Saint-Germain cette saison, que ce soit au match aller contre la Real Sociedad, au match retour contre Barcelone bien évidemment. Il sait marquer, faire marquer les autres. Il apporte la verticalité, il a un jeu fait de feintes, de dribbles. Il est effectivement très spectaculaire. C'est un joueur qui pour moi a passé énormément d'échelons cette année. Et je pense que la marge de progression est énorme et qu'on n'a encore rien vu de Bradley Barcola.
Bernard Lyon, c'est dans la place.
Donc ainsi donc pour Benjamin Pia, il suffit de 3 matchs et quelques performances pour devenir un crack extraordinaire. Et Guillaume, il a raison, un crack on le juge sur la durée. Même un joueur comme Lamine Yamal, qui fait une saison extraordinaire, elle est beaucoup plus aboutie pour l'instant que Barcola. Ses 3 buts, 8 passes décisives en 36 matchs, c'est bien, c'est très très bien. Il a une progression en 1 an, pas en 6 mois, qui est fabuleuse. D'accord, mais ça n'en fait pas pour autant un crack, comme pour Lamine Yamal, qui n'est pas encore un crack. Ce sont des pépites, ce sont des promesses et des joueurs extraordinaires là-dessus. On est tous d'accord. Mais de là, on déjà les instaurer comme crack, non.
Merci. 0,5 seconde, je
un
crois.
Crack, c'est le poulain préféré dans une écurie de course. C'est un poulain, c'est un jeune, un crack. C'est
donc,
Barcola.
Donc, mademoiselle Pia a droit à 42 secondes.
Non.
Voilà.
Non, pas du tout.
Ah ben donc, on va ressortir le dictionnaire, on va repomper sur son iPhone.
Non, c'est pas ça, mais vous n'avez pas le droit d'avoir votre assistance voilà, numérique. Ouais, ouais, voilà, ouais, vous avez dit le citer tête. Et oui, mais bon, bah, écoutez, c'est un argument qui compte.
Il faut bosser les duels. Hein.
Le président, bah, c'était pas mal. Le président est là. Le président, il y a eu des références avec Lamine Yamal, le Barcelone. J'ai senti que Bernard était...
Président.
Voilà, il y a eu les petits trucs. Crack ou pas crack, ce petit Barcola là.
Si on dit un crack, les joueurs les plus forts qu'on a vus passer... Et on peut remonter à 10-15 ans, je ne vais pas les citer, hein, pas ceux d'aujourd'hui. Ça reste une pépite, un joueur en devenir qui a un énorme potentiel, qui a peut-être bousculé la hiérarchie, mais ce n'est pas un crack, oh, les gars. Un crack, c'est gagner des titres. Là, tu me parles, il est bon, je n'ai pas de doute. Il a poussé Mbappé avant-centre, donc il doit être bon. Mbappé n'avait pas ridiculisé Koundé au match aller, et lui, il l'a fait au match retour. Donc il est meilleur qu'Mbappé côté gauche. Donc Mbappé, il va être obligé de jouer maintenant avant-centre. Plus sérieusement, la Real Sociedad, arrête. Et le Barça à 10 contre 11, arrête.
Ah, donc, parce qu'il a attendu qu'il soit à 10 contre 11 pour être excellent, Barcola.
Non, il a joué. Non, mais
on parlait de la Lamine Yamal. Désolé, mais Barcola, sur ce match-là, il a éteint tous les Barcelonais.
C'est pas ça, je te dis. Tout le monde dit à 10 contre 11, il a provoqué le pénalty. Il avait pas... Il avait fait des... Non, mais il avait fait...
Il a été...
Quelques crocs... Non, mais après... Mais avant, il avait fait bon 2-3 débordements. Oui. Or, c'est un crack. C'est Messi, c'est
non,
Ronaldo,
vous n'êtes pas d'accord.
Mais vous savez ce
on
que c'est le crack.
Vous allez bien
le mot, le crack. Le crack, c'est le. Alors, Enrique, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il commence à le mettre. Mais le crack, pour moi, c'est tu poses même pas la question. Et tu le mets à son poste.
Ouais.
Donc ça va venir. D'ailleurs, mais c'est pas ce qu'a fait Enrique depuis le début de saison. Il a managé le crack.
J'ai une petite question avec un inventaire. Parce qu'on est gâtés, nous, les Français. On voit depuis déjà plusieurs saisons l'émergence de jeunes joueurs français et des joueurs qui ont un peu le profil.
Alors, non, mais Ntep, vous vous souvenez de ce qu'on a dit autour de cette table, Ntep?
Moi j'avais noté des noms comme ça. Des noms qui étaient devenus des pépites, des noms qui sont parfois devenus des cracks et qui sont restés, on va dire, dans l'antichambre. J'ai un Martial. J'ai un Coman, j'ai un Dembélé, Ousmane, j'ai un Randal Kolo Muani, j'ai un Moussa Diaby, j'ai un Flo Thauvin. Mais où le situer, le petit Barcola, là, par rapport à ça?
La pépite, c'est Camille qui vient de me souffler, elle a totalement raison. Atem Ben Arfa. Voilà. Les premiers mois d'Atem Ben Arfa, on était tous...
Mais c'était un crack?
Bah non, c'était une pépite. Atem Ben Arfa, il a jamais...
Tu rigoles ou quoi? Mais... Une pépite, c'est quelqu'un qui a un centre de formation.
Atem Ben Arfa n'a jamais réussi à passer le cap. Voilà. On est toujours resté sur notre fin. Donc Barcola, laissons-le grandir. Alors Benjamin, toi qui es journaliste du Parisien et tu m'as dit cartésien tout à l'heure, ne va pas trop vite. Dans 15 jours, s'il marche à l'envers, on va le descendre. On va dire, on s'est enflammé sur ce gamin et tout. Ce qu'il fait, c'est déjà remarquable. Moi, je pensais qu'il faisait une énorme erreur en signant au PSG parce que je pensais qu'il avait besoin de temps de jeu et qu'il aurait dû rester à Lyon où il se serait... affirmé. Franchement, je trouvais que c'était une erreur. Bah, je me suis trompé. Je trouve que sa saison est remarquable.
Mais
pour en faire...
Il a éteint les arguments de tout le monde au début de la saison. T'es pas le seul, hein. Même ceux qui allaient voir les matchs de jeunes avant ne voyaient pas le potentiel de gamin qui est en train de repousser les murs les uns après les autres.
Attendons.
La patience est demandée. Nous allons donc accélérer. Deuxième débat ou question sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Marquinhos en larmes. Il a été fêté hier au Parc des Princes. Rappelons qu'il est depuis 12 jours et 3 matchs le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Paris Saint-Germain. 438 au total. Le record a été détenu depuis 35 ans par Jean-Marc que Pilorget. Et pour cet événement, la rédaction du Parisien, personnifiée ce soir par Benjamin Quarez, a décidé de faire un coup, convoquer Marquinhos, ne pas fondamentalement lui poser des questions, mais faire venir des témoins proches qu'il a connus. Là, j'ai une petite séquence à vous montrer. Et vous pouvez regarder l'intégralité de cette interview, soit sur YouTube ou soit sur le site du Parisien. Regardez, c'est l'un de ses anciens coéquipiers qui va faire craquer Marquinhos. Regardez cette séquence.
Ta maman m'a dit un jour que tu rêvais de jouer avec moi. Tu as accompli ton rêve, mais aujourd'hui, je voudrais te demander quelque chose. C'était la vérité ou était-ce du bluff ?
Na verdade, foi tudo enganação.
C'est des larmes de fierté, surtout. Et voilà, quand je vois l'opportunité de venir à Paris, je pense même pas deux fois, parce qu'il y avait Thiago. Après un entraînement, ma mère, elle était là, elle a pris une photo aussi avec lui, et elle dit ça pour lui. Et moi, j'étais tout rouge, non, j'avais honte. Pour Thiago, qui est la mère d'un coéquipier, il lui dit ça. Je pense que c'était très fort. Et pour moi aussi, ça a été fort.
Benjamin, c'est pas vous hein, qui êtes à l'origine. C'est qui ? C'est Stéphane ?
Adrien Chantegrelais et Stéphane Bianchi qui ont fait un gros travail pendant 4-5 mois à récupérer les questions. C'était pas évident.
T'es boss toi maintenant ? Tu fais bosser les gens ?
Je leur donne quelques pièces comme ça et puis ils bossent très très bien.
Faites pas votre Dominique, c'est vrai. Benjamin, vous avez quelques anecdotes de tournage là sur le. Quand les copains Stéphane et Adrien reviennent en disant ils vous parlent des larmes, c'est passé comment là ?
Oui, d'entrée, ils nous parlent des larmes effectivement. Alors il y avait plusieurs interviews qui étaient calées dans l'après-midi. C'était un jour off pour les Parisiens. Ouais. Il y avait donc deux autres médias qui l'avaient. On était les premiers à l'avoir. On devait avoir 30 minutes avec Marquinhos. Il est resté 40 minutes. Et il n'était pas au courant de la thématique qu'il la connaissait globalement, mais il ne savait pas qui allait poser les questions et à quoi s'attendre.
Mais c'est fou qu'il craque comme ça.
Pour le coup, on a senti monter crescendo son émotion parce qu'il y a eu des questions de Maxwell également et de Lucas sur lesquelles il avait un peu tiqué. On sentait que ça lui parlait, en tout cas ça le touchait au plus profond de lui. Et on ne s'attendait pas, honnêtement, à ce qu'il craque sur cette question-là. D'ailleurs, en préparant les questions, mes camarades se sont dit il va pas craquer sur celle-là, mais peut-être qu'il craquera sur celle de sa maman, par exemple.
Ah, vous êtes allé pour le faire craquer.
Ou de son frère.
Ah, les salauds.
Mais non, parce que pour le coup, on savait qu'on allait en face de nous quelqu'un d'assez émotif. Qui,
vous aviez une pépite ou un crack en face de vous ?
On avait on avait une pépitas.
Attendez, laissez finir, Benjamin.
Pour le coup, on était très satisfaits. Il y a eu une crainte côté PSG, évidemment, que ce débat qu'on va faire ce soir revienne sur la table parce qu'il a eu, on le sait, des critiques justement parce
sur son émotivité.
Sur certains matchs, il était une pleureuse, qu'il tombait dans l'émotion. Pour le coup, il avait donné le meilleur de lui sur cette interview. Il s'est lâché comme je pense rarement, honnêtement. Et sur cette question-là, effectivement, il lui pose la question de se dire est-ce que tu y allais parce qu'il y avait ton idole Thiago Silva, est-ce que tu as réalisé ton rêve Oui, là, on se rend compte à quel point c'était important pour lui de jouer avec Thiago Silva. Et il l'a dit avec ses termes. Et ça, la question, en fait, là, on a donc réduit au maximum. Ça ne dure pas très longtemps, la séquence vidéo. Mais ça dure 7 minutes, en réalité. 7 minutes où il détaille son amour pour Thiago Silva, pourquoi il est venu, qu'il en a parlé avec sa maman, etc. Enfin, voilà, c'était génial. Et ça fait partie des séquences que mes collègues retiendront, évidemment. J'en ai encore parlé avec eux aujourd'hui. Et ils m'ont dit, dans une carrière de journaliste, Stéphane qui a maintenant un âge un peu plus avancé, pas très loin de la retraite, disons-le. s'en rappellera. Je récolte bientôt ça, Stéphane, mais il s'en rappellera.
Mais moi, j'ai trouvé la réaction incroyable, mais un poil disproportionnée, le fait de jouer avec son idole et le fait de fondre en larmes. Voilà, mais je juge pas Marquinhos. Enfin, je vois comme ça.
Si Toni Kroos voit Johan Mikou demain, il va lui baiser les pieds.
Ouais.
Mais moi, je ne comprends pas que vous soyez surpris. Voilà, bon, c'est un un sportif.
J'associe des larmes à la tristesse. Voilà.
Je sais pas. Est-ce que Est-ce que sa maman. Peut-être que sa maman a des problèmes. Peut-être que sa maman est souffrante. On connaît pas totalement le contexte non plus. Peut-être que c'est la vérité. Peut-être que.
Mais voilà, évidemment, c'est la vérité. Enfin, il a pas.
C'est vrai qu'il est très émotif.
Toi, tu n'aimes pas reconnaître l'humanité chez les sportifs.
C'est très bien que. Ça
ne plaît pas, mais.
À demain, ça dit Pierre, à demain, Pierre.
Mais derrière chaque footballeur,
on donnera la parole à Pierre. Elle a passé un dimanche horrible sur la célébration de Marquinhos. Elle a chialé comme une madeleine. On va sauver le soldat Pierre Clément. Allez, à tout de suite, mes petits.
Donc, on peut partir, nous?
Non. Marquinhos en larmes, c'est un document du Parisien qu'on a regardé. Je pose des petits textos à tous les chroniqueurs le matin. Certains me répondent pas. Et là, ce soir-là, il y a Pia m'a envoyé un petit truc. Vous l'avez mal vécu, donc le jubilé de Marquinhos, ça c'est...
Il y a un petit truc de 10 pages.
Vous étiez en larmes.
En fait, je t'ai envoyé un texto, Olivier, en me disant, moi, l'info qui m'a marqué ce week-end, c'est que j'ai chialé devant l'hommage à Marquinhos.
Voilà. Tutoyé,
je n'avais même pas encore vu la vidéo du Parisien. Ouais. Donc j'ai vu la vidéo du Parisien avant de venir, je l'ai regardée avec un sourire béat. Mais moi, j'ai envie vraiment quand même de vous interroger sur même le bien fondé de cette question. En fait, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'un homme...
Rien me dérange.
Olivier, pas vous, mais les hommes en général, les supporters de foot, dans le fait qu'un homme qui est un sportif de très haut niveau, qui est un des plus constants que la Ligue 1 ait connu ces 10 dernières années, qui est fidèle à son club, qui est quelqu'un de bien respecté par 100% de ses adversaires, par tous les arbitres, par tous les dirigeants... Pourquoi ça vous dérange qu'ils se mettent à chialer?
Ah, mais ça me dérange pas.
Ça me dérange pas.
Non, mais moi je vous réponds, c'est moi qui imaginais cette question.
Écoutez-moi.
Ça aussi surprenant.
Attends, Guillaume.
Les motifs,
je sais. Oui, tu l'as dit. Moi j'ai envie de vous demander un truc. On a tous été émus quand on a vu Nadal et Federer main dans la main en train de pleurer sur le dernier match de Federer.
Ah oui.
Là, on a un Marquinhos qui parle de son grand frère en football. De son modèle, de son idole, de celui qui l'a couvé quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, de celui qui a fait de lui ce qu'il est devenu, le footballeur qu'il est devenu. Il parle de ça, il parle d'une relation humaine, il parle de quelque chose qui l'a transformé en homme. Et vous vous étonnez qu'il pleure. Mais moi aussi, ça m'aurait fait pleurer, en fait.
D'accord. Okay.
C'est ça que j'ai envie de vous dire. Pas grave. Acceptez cette émotion. Sur le terrain, il est juste excellent. Il a été moins bon ces deux dernières saisons parce qu'il s'emmerdait, parce qu'on avait des coachs qui étaient emmerdants, parce qu'il n'avait pas de milieu de terrain devant lui. Donc oui, il était un peu moins bon. Cette année, ça y est, il est remobilisé. Okay. Marquinhos est de retour et laissons-le chialer tranquillement.
Là, on arrive sur la fin de saison. Très régulièrement, il y a des rugbymen qui disent adieu, qui s'en vont, qui... stoppent leur carrière. Ouais. Eh bien, ce sont des grands garçons bourrés de testostérone. Eh bien, les mecs, à la fin, quand ils voient leurs enfants arriver, ça pleure.
Zlatan, quand il dit adieu au Milan à la fin de sa carrière, il est en larmes, il ne peut pas parler. Et c'est Zlatan, il n'y a pas plus testostéroné.
Moi, ça restera toujours psychologiquement le petit marquis. C'est un petit je ne veux pas le dévaloriser, mais psychologiquement.
Eh bien, peut-être. Le fait, mais voilà. C'est que chaque humain est différent. Chaque footballeur est différent. Rai, quand il arrive, il est nul la première année et après ça devient une légende du club. C'est des humains et en fait moi je n'aime pas le foot quand c'est des machines qui jouent. Je n'aime pas les joueurs qui disent l'important c'est les 3 points et on avait à cœur.
T'aimes pas le foot, c'est quand même la phrase la plus
ça pourrait me faire pleurer ça pourrait me faire pleurer mais de rage.
Pierre, tu poses la question.
Surtout après un match amical.
Je peux te répondre en 10 secondes parce que on a fabriqué aujourd'hui des robots, des joueurs qui sont capables d'enchaîner les performances sans finir essoufflé, sans transpirer et sans avoir aucune émotion et être focus sur le match d'après dès le coup de sifflet final. Donc ça tranche, Marquinhos, et ça fait du bien.
Real Barça, 3-2, 28e minute de ce match, 1 partout au tableau d'affichage. Le ballon dévié par Lamine Yamal sur le corner est-il entré intégralement dans le but d'André Lounine? On ne le saura jamais car en Liga, le championnat n'est pas équipé du système de la goal line technologie. Le but ne peut pas être invalidé ou validé, mais en tout cas, il n'a pas été validé. Au lendemain du match, il sort du bois. C'est le président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui réagit dans une mise en scène, on va dire extrêmement sobre, digne d'un chef d'État. Regardez.
Si une vez analizada esta documentación, Si l'analyse des documents nous montre qu'une erreur a été commise dans la révision de l'incident, nous prendrons toutes les mesures disponibles pour inverser la situation, sans écarter bien entendu toute action en justice nécessaire. Nous n'écartons pas de demander que le match soit rejoué, comme cela s'est produit dans un autre match en Europe, à cause d'une erreur du VAR.
Alors le plus ridicule, c'est la demande de Joan Laporta de rejouer ce classico ou l'absence de goal line technology en Liga. Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel express. Et on retrouve les mêmes, et Guillaume et Bernard. Donc, il me semble que c'est Guillaume qui commence et Bernard qui conclut.
Ah, les amis de 30 ans.
Hein, d'accord. La demande de Joan Laporta de rejouer le match, c'est Pia et c'est Benjamin qui commencent.
Vas-y.
Honneur aux dames.
Vas-y, ouais. C'est moi qui commence.
Ok, donc c'est Monsieur Quarez qui commencera. L'absence de goal line technology, Guillaume Dufy, vous avez la main.
Alors bon, je n'avais pas vu malheureusement la vidéo et les costards mal taillés du président, qui est ridicule, mais je trouve que le plus ridicule, c'est quand même dans un monde moderne avec une technologie développée et l'existence du VAR dans le championnat espagnol. Pourquoi on ne va pas au bout, quoi ? Pourquoi on n'ajoute pas un petit billet pour avoir une ligne connectée ? C'est ça que je trouve ridicule. Autant être cohérent, quoi. Moi, j'aime bien la cohérence, donc être cohérent, autant être cohérent jusqu'au bout.
Vous, c'est la demande de Joan Laporta qui est la chose la plus ridicule dans cette affaire, Benjamin.
Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'absence de goal line technologie en Espagne est débattable et critiquable, évidemment. Moi, j'étais très surpris et je trouve ça... anormal pour un championnat digne de la Liga. Maintenant, la réaction de Laporta est encore plus ridicule à mon sens. Il faut savoir perdre, encore plus quand on est grand Barcelone. Déjà cette semaine, contre le Paris Saint-Germain, à l'issue de la rencontre, j'ai vu des dirigeants se plaindre de l'arbitrage et peut-être presque imputer cette défaite sur l'arbitrage. Encore là, c'est un grand rendez-vous, le match contre le Real Madrid, on va imputer cette défaite à l'arbitrage. Il y avait un partout lors de cette erreur d'arbitrage. Ensuite, il y a eu un but marqué par le Barça qui n'a pas empêché de revenir. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait plus à redire.
On file à la maison Lyon, c'est l'absence de goal line technologie. Ouais, c'est ridicule ça.
Monsieur Laporta n'est pas ridicule, il est démagogue. Il fait plaisir à ses socios, mais il sait très bien, de toute façon, il n'y a aucune chance que ça aboutisse auprès des dirigeants de la Liga, qui, je vous le rappelle, ont adopté le VAR la même année que leurs dirigeants français, c'est-à-dire pour la saison 2018-2019, mais sans adopter la goal line technologie, alors que ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'elle est présente de partout dans les autres grands championnats majeurs. C'est ça qui est vraiment ridicule en Espagne.
Ok, tiens.
Je trouve qu'entendre le dirigeant du Barça se plaindre de l'arbitrage, c'est pas seulement ridicule, c'est carrément inentendable. Parce que je rappelle que depuis la mi-mars, le club du Barça est inculpé pour corruption entre particuliers dans le secteur sportif, abus de confiance et faux en écriture de commerce pour avoir arrosé à coups de millions le chef des arbitres espagnols. Donc, mais bien sûr que ça compte. Comment tu peux oser parler de l'arbitrage quand t'as un tel passif derrière toi? Je trouve ça hallucinant.
Merci beaucoup, ce super duel a fait toutes ses promesses. Vous êtes sur le site L'Équipe pour trancher. Le président est demandé, le président, le plus ridicule, c'est l'absence de goal line ou la déclaration de Joan Laporta. À vous de trancher.
Pas question de gagner, c'est répondre à
la question. Il a raison, Bernard, le président est dans son rôle, mais bon, moi je dis que c'est la goal line parce que tu es dans un championnat qui pèse des milliards. C'est 4 millions et Tebas, le président de la Liga, ne veut pas payer à la société qui mettrait en place ce système pour 4 millions. C'est pas sérieux. Là, c'est pas bien grave quelque part parce que même si le Barça revient à 5 points, tu as un espoir, mais à l'arrivée, Madrid conservera et mérite de gagner le championnat. Simplement, imagine qu'il n'y ait qu'un point d'écart. Et là où je ne suis pas d'accord, et je suis désolé, c'est que le Barça, quand même, sans les défendre, parce qu'on est passé à autre chose, c'est que tu as pénalty qui est fantôme de Cubarsí avec Vasquez qui laisse traîner son pied. Revois, et tu honnêtement.
Oui. Et simulation.
Notre ami Rudiger qui cartonne Fermín López, qui rentre dans la surface, pas de VAR, rien. Moi, je peux te dire, on s'est fait enfumer, enfler grave, de chez grave. Voilà. Et c'est
la
ça qu'a.
Toi, hein.
Non, je parle de. Non. Oui, mais la VAR, plus la goal line, tu te dis, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'elle accuse le Barça, on verra bien s'ils sont.
Non, c'est pas elle, hein.
Non, mais pour appuyer le côté ridicule, elle dit le Barça, bon, il y aura un procès, ils sont condamnés comme d'autres clubs en Italie ou ailleurs. Bon, mais je vais dire une chose, je pense que le Real Madrid au niveau de l'arbitrage,
Je pense qu'ils ne sont pas très clairs depuis 50 ans.
Camille, en Serie A, la Goal Line Technology fonctionne. Vous avez un exemple. Et c'est Bernard et Guillaume qui triomphent. Vous avez un exemple ce soir entre la Roma et Bologne.
Exactement. Le deuxième but bolognais. Utilisation de la Goal Line. C'est révolutionnaire. C'est magique. Elsa Azouzi qui remet de la poitrine pour Zirkzee qui déborde et tire. Et hop, la montre vibre. C'est bon. L'arbitre valide le but. Et ensuite, on a la confirmation avec les images que le ballon a bien franchi la ligne but accordée à Bologne. C'est assez
pourquoi
simple.
Ça paraît en fait tellement simple.
Parce que la différence quand même du VAR, c'est que maintenant, la goal line technology, ça devient pratiquement infaillible.
Le quiz suis-je à présent. Le thème du soir, alors que qui allait Eric Blanc, vous avez les jokers. Alors, en l'honneur de Rocky, on a parlé un peu cinéma. Les sportifs qui ont joué au Cinoche, des films, ou les acteurs qui ont une carrière sportive.
Comment
Les sportifs qui ont joué au Cinoche. Ou les acteurs qui ont une carrière sportive. Lino Ventura, 4, vous voyez. Michel Constantin, Volet. Je vous les donne parce qu'ils ne sont pas là. Donc voilà, comme ça, ça.
En plus, c'était les deux seuls. Donc,
ok, bah voilà. Merci Guillaume. Et je suis un joueur de football retraité pour 4 points. Un joueur de football retraité. J'ai joué dans 9 clubs différents pour 3
Cantona.
Points. Cantona, c'est une mauvaise réponse. J'ai fini ma carrière à l'AC Milan.
Ibrahimovic.
Ibrahimovic, 2 points. Ouais, Zlatan Ibrahimovic qui a joué dans Astérix.
Quel rôle
Enfin, 15 Zlatan secondes, Zlatan c'est joué quoi.
Zlatan antivirus, antivirus.
15 secondes, c'est joué.
C'est vrai en plus.
Quel buzz. Attention mes petits.
Je pense qu'on n'ira jamais au Cinoche avec toi.
J'ai brillé dans les années 90. J'ai brillé dans les années 90. Comment
Cantona.
Cantona, toujours pas lui.
C'est tenté.
Je suis considéré comme le GOAT du basket.
Jordan.
Ouais, Michael Jordan dans Space Jam.
Ah oui,
ouais.
Avec les dessins animés.
Là, j'ai pleuré, moi. Ouais, j'ai pleuré. Attention, ne vous précipitez pas pour ce champion, cet acteur.
C'était un piège.
Dans ma carrière, j'ai remporté 17 ceintures mondiales. Mais pas en boxe. C'est en catch que j'ai remporté 17 ceintures mondiales. C'est un catcheur qu'il faut trouver.
The Rock.
The Rock. C'est qui The Rock?
The Rock.
Dwayne Johnson.
Ouais.
Bon, allez, 3 points.
Ah bon, elle ne connaît pas le prénom.
Non, franchement,
tu n'as pas le droit.
Pas le droit. Ben, tu ne connaissais même pas le prénom.
Et moi, j'ai un surnom aussi, moi.
Tu l'as pas dit, tu es capable de dire le nom.
La Duf. Guillaume Dufy.
Voilà, The Duf.
C'est lamentable, ça, mémé. Alors, Michel n'est pas truqué, là, ça ne s'est pas vu.
Docteur Love.
Oui.
Oui, bah oui, vous avez répondu. Vous avez appelé avec votre surnom, vous répondez. Donc, ça peut marcher. Je compte 5 médailles d'or olympiques. Vous, Bernard, je compte sur vous, là. Vous qui avez cette culture. Ou qui est dans l'équipe, là, qui avait la laine, 5 médailles d'or olympiques. C'était au JO 24-28, pour 3 points.
Vessmuller.
Johnny Vessmuller, bonne réponse, Tarzan au cinéma.
Je savais que c'était Tarzan que je cherchais le.
Oui. Ouais.
Rambo. Il fallait dire Tarzan.
Ah ben non, mais ça. Alors,
le dernier.
Moi, je monte pas, je triche pas comme mademoiselle Pia.
Ah, Juarez, vous êtes éliminé. Attention, je suis.
C'est tactique. Tu restes 7-0.
Je suis français. 4 points.
Belmondo,
non. Je suis un numéro 7 légendaire.
Cantona,
3 points pour Guillaume Dufy. Ah, le sport, le cinéma, la culture. Merci mes petits. On vous embrasse. Demain, la maison est toute verte.
Ah oui, il fallait vraiment que ce soit la Duf qui gagne.
Grâce à moi, il y a des gens qui vont aller au
Chess Tag. Le jeu du chat.
Qui peut durer 15 jours, 3 semaines si on trouve pas le mec qui est caché.
C'est cadeau, on vous invite. Quelle ratière. On vous embrasse. Ciao, à demain.